Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, mais qui faut-il croire dans ce dossier très complexe et très imbriqué que celui des mercenaires déployés actuellement sur le théâtre libyen? La presse turque croit savoir que la société militaire privée Wagner aurait actuellement le projet d'envoyer 300 hommes syriens qui sont originaires de la région de Deir ez-Zor et ils auraient pour projet, contre rétribution bien évidemment, de rejoindre l'Est libyen. Est-ce que c'est une opération d'intox de la presse turque? En tout cas, il y a d'autres sources également en provenance du Golfe qui font état d'un réassort de combattants syriens qui viendraient non pas combattre, puisqu'actuellement il y a toujours le cessez-le-feu en Libye, mais en tout cas assurer une présence militaire à l'est du pays. Sachant que l'on ne connaît toujours pas le sort réservé aux quelques centaines de mercenaires syriens, mais qui, eux, combattaient du côté des Turcs, ils ont quitté la Libye, ils seraient arrivés en Turquie. Que vont-ils devenir? Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux en Syrie? Est-ce qu'ils vont être redéployés sur d'autres fronts? Point d'interrogation. Ceci alors que nous apprenons que des groupes armés tchadiens, notamment le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, le FACT, lui, continuerait à recevoir des subsides d'armes et de munitions en provenance de la Libye. Ce qui fait craindre que ce mouvement ait la tentation de reprendre les affrontements avec l'armée tchadienne. Information qui tranche avec le ressenti que nous avions eu ces dernières semaines, avec ce sentiment de reprise d'une vie politique, d'une réunification, d'une réconciliation entre les frères ennemis libyens en perspective d'une élection présidentielle à la fin de l'année. Mais donc on se rend compte qu'il y a toujours sur le terrain des mouvements d'hommes, de matériel, d'armes, de munitions, ce qui amène la communauté du renseignement américaine à publier son rapport d'évaluation des menaces pour l'année 2021. Et concernant le chapitre consacré à la Libye, il est écrit ceci, je vous le lis in extenso. L'instabilité et le risque d'une reprise des combats dans la guerre civile en Libye persisteront cette année, donc là les Américains parlent de 2021, et ce, je reprends la lecture, malgré des progrès politiques, économiques et sécuritaires limités. Fin de citation. Ceci pour l'analyse des experts américains qui suivent la situation en Libye. En Algérie, inquiétude à la prison de El Arach où se trouvent les 23 détenus du Irak qui ont entamé un mouvement de grève de la faim. Selon toute vraisemblance, ils auraient quitté la prison pour se rendre d'urgence à l'hôpital. Leur état de santé s'étant considérablement dégradé, ils en sont actuellement à 8 jours de grève de la faim. En Algérie toujours, mouvement social, cette fois-ci ce sont les employés de Numilog qui ont manifesté, qui ont demandé la réintégration d'employés qui ont été licenciés. Un rassemblement pacifique devait être organisé, les forces de l'ordre sont intervenues, des heurts s'en sont suivis. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a dénoncé une violation de la constitution algérienne qui garantit le droit de manifester. La Tunisie toujours en difficulté face à la pandémie de coronavirus. Le directeur régional de la santé de Béja, qui est une région fortement frappée par la pandémie, eh bien, il pointe du doigt l'indiscipline de ses concitoyens, le manque de respect des protocoles sanitaires. Tunisie toujours avec des inquiétudes concernant l'agriculture tunisienne qui aujourd'hui a de plus en plus de mal à satisfaire les besoins de la population puisque les importations agricoles tunisiennes ont augmenté de 27,5%, chiffre inquiétant quant au devenir de l'agriculture tunisienne et sa capacité à nourrir sa propre population. En Irak, cet attentat à la voiture piégée dont nous venons de prendre connaissance, 4 personnes tuées, 17 autres blessées, cela s'est passé dans le quartier de Sadr City. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication. En Syrie, beaucoup de mobilité ces dernières semaines, des forces armées russes qui ont décidé de construire une base avancée avec une zone d'atterrissage réservée aux hélicoptères. Cela se passe entre Raqqa et Deir ez-Zor, donc au centre de la Syrie, zone qui est actuellement tenue par le 5e corps de l'armée arabe syrienne, qui est donc demeuré fidèle au régime de Bachar el-Assad. Les forces russes pourront ainsi bénéficier d'appuis tactiques et de soutien dans leurs opérations de lutte contre les poches résiduelles du groupe État islamique. Et puis également, l'hélicoptère est un outil précieux pour l'approvisionnement des postes éloignés, notamment dans la région du Nord-Est.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
C'est en Palestine que nous posons aujourd'hui nos valises, que nous nous arrêtons quelques instants pour lire ensemble les conclusions d'une enquête qui a été conduite par l'Organisation israélienne des droits de l'homme, B'Tselem, qui chaque année procède à des interviews, à des sondages pour essayer de savoir ce que pensent les Israéliens, les Palestiniens qui résident en Israël. Alors l'année dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait promis d'annexer le territoire de la Cisjordanie en l'incorporant légalement, avait-il dit, à Israël. Bon, il avait reculé sur ce projet en août lorsqu'il a normalisé ses relations avec nombre d'États arabes. Et l'enquête que B'Tselem vient de faire révèle que 58% des Palestiniens pensent qu'Israël a malgré tout l'intention d'annexer la Cisjordanie contre 32% des Israéliens. B'Tselem a également interrogé sur le devenir de la Cour pénale internationale qui s'est déclarée compétente pour enquêter sur les faits se déroulant dans le territoire palestinien. Le tribunal de La Haye a annoncé qu'il allait ouvrir une enquête sur des crimes israéliens présumés contre les Palestiniens. 51% des Israéliens ne pensent pas que la CPI va réussir à mener à bien ces enquêtes. En revanche, côté palestinien, 70% des personnes qui ont été interrogées pensent ou espèrent que la CPI pourra mener à bien les enquêtes qu'elle souhaite mener et que des décisions judiciaires seront prises par la suite. B'Tselem, enfin, a trouvé un changement par rapport à l'année dernière parmi les juifs israéliens sur la perspective d'un parti politique arabe étant en capacité de rejoindre une coalition gouvernementale, puisqu'on n'a toujours pas de coalition qui soit aujourd'hui aux affaires en Israël. En 2019, 35% des juifs israéliens estimaient que ce n'était pas possible, que ça ne verrait jamais le jour. Aujourd'hui, 49% estiment que c'est de l'ordre du possible, puisqu'on sait que le parti islamiste Ra'am, qui est dirigé par Mansour Abbas, a récupéré 4 sièges à l'issue des dernières élections législatives anticipées. Il y a toujours des tractations, mais ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que cela démontre qu'aujourd'hui, les juifs israéliens admettent qu'un parti arabe musulman puisse intégrer une coalition gouvernementale en Israël. Enfin, l'enquête de B'Tselem se termine comme sur un effet miroir, va-t-on dire, avec les trois quarts des Palestiniens qui pensent qu'Israël est un État pratiquant l'apartheid, et côté juif israélien, les trois quarts de la population qui pensent que non, justement, l'État n'est pas un État d'apartheid en Israël. C'est en tout cas cette vision en miroir qui conclut l'enquête de B'Tselem sur les opinions publiques qui s'expriment dans les territoires palestiniens et en Israël. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.